Nzamba
Nzambi rasamirana
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Nous retrouvons pour la rétrospective de l'actualité de la semaine du 29 avril en Sarmé sur la radio Inzamba Retea Kawe. Bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
La Ligue des droits de l'homme ITK se dit préoccupée par la gravité de la criminalité au Burundi depuis qu'Evariste Ndayishimiye dirige le pays. Cette organisation a dénombré plus de 1000 personnes tuées par des malfaiteurs non encore connus au cours de cette période d'environ 4 ans. La Ligue ITK déplore que la plupart des personnes assassinées aient été vite enterrées sans la moindre enquête préalable et lance un cri d'alarme. On écoute mon cher Nicolas Guizé, président de la Ligue des droits de l'homme ITK.
À part la réponse par le silence, une stratégie s'est développée au fur et à mesure du temps que ces cris ont été lancés. C'est une stratégie bien innovée où sur tout le territoire, si un cadavre, si un corps sans vie est retrouvé, un enterrement ou une inhumation subite sans qu'il y ait la moindre enquête est organisée par l'administration à la base en collaboration avec la police et les jeunes du parti au pouvoir. Et la Ligue TK s'est toujours posé des questions. Pourquoi ça? Pourquoi ne pas faire une enquête? Nous savons que le Burundi a beaucoup d'institutions qui peuvent le faire. Il y a la police qui est là, il y a la justice qui est là, le ministère de la justice, il y a la CNDH qui est là, mais qui n'ose même lever un doigt sur ça. Donc tout ça, des milliers de gens sont tués. La Ligue TK seule a pu documenter sur à peu près les 4 ans du règne de Ndayishimiye au moins 1188 personnes tuées par des gens non identifiés. Et le gouvernement ne dit rien. Donc la Ligue TK sort ce rapport bilan juste pour arrêter la communauté nationale et internationale de suivre ce phénomène, d'essayer de convaincre le gouvernement d'arrêter ce phénomène ignoble, cette criminalité qui ne cesse d'endeuiller la communauté burundaise où les familles pleurent du jour au jour. Et n'a saisi cette occasion de faire une recommandation au ministre de l'Intérieur. Cette stratégie est mise en œuvre par ses services d'essayer d'arrêter et d'éradiquer son crime sur le territoire du Burundi. Et aussi au ministre de la Justice de jouer son rôle, de faire des investigations pour que les familles des victimes sachent pourquoi les leurs ont été assassinés, pour quels motifs, qui ont fait ça, pour qu'ils puissent être poursuivis.
Le respect des droits des journalistes est l'un d'être une réalité au Burundi. C'est un constat de l'Union burundaise des journalistes à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai de chaque année. Deux femmes journalistes croupissent injustement en prison, tandis que plus de 170 autres sont en exil selon l'UBJ. Alexandre Nyungeko, président de l'UBJ, explique que le non-respect des droits des journalistes ternit l'image du Burundi. Il appelle à la libération des journalistes emprisonnés. On l'écoute.
La célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse nous rappelle la responsabilité des gouvernements à respecter leurs engagements pris en faveur de la liberté de la presse, un domaine dans lequel le gouvernement burundais a encore un chemin à faire si on se réfère à la situation de la presse au Burundi. Il s'est de rappeler ici l'emprisonnement de deux femmes journalistes pour des motifs fallacieux qui n'ont d'autre visée que d'empêcher les professionnels des médias, à faire leur travail et de faire taire toute voix dissonante. Cet autre journaliste et responsable des médias ont été condamnés à perpétuité par la Cour suprême le 23 juin 2020 pour leur supposée participation dans le coup d'État de 2015. Ces emprisonnements et condamnations sont un signe fort envoyé à tous les professionnels des médias au Burundi qui, depuis la crise de 2015, travaillent la peur au ventre et qui, pour leur survie, se sont imposés une autocensure pire que la censure à laquelle le gouvernement les soumet. Il a renforcé ce climat de terreur qui paralyse les professionnels des médias et les empêche d'accomplir leurs tâches et les limites dans leur liberté d'informer. Si, comme disait Albert Camus, un pays vaut souvent ce que vaut sa presse, la liberté de la presse reste en leur dans un pays où plus de 170 journalistes se sont exilés pour fuir les exactions du régime CNDD-FDD au moment où d'autres ont été assassinés. L'Union burundaise des journalistes s'est saisie cette occasion pour rendre hommage à deux journalistes, Christophe Nkezabahizi, caméraman à la télévision nationale du Burundi, assassiné avec toute sa famille le 13 octobre 2015, et Jean Bigirimana, journaliste au groupe de presse Watch, porté disparu depuis le 22 juillet 2016. L'Union burundaise des journalistes condamne le déni de justice pour ces deux journalistes et l'indescriptible souffrance à laquelle leurs familles sont soumises en attendant toujours la vérité, plus de 8 ans après les faits.
Dans un tout autre secteur, beaucoup d'employés sont persécutés par leurs employeurs en milieu de travail quand ils osent dénoncer ce qui ne marche pas. C'est le regret de la Confédération des syndicats du Burundi Kosibu. Son président Célestin Savimana trouve que cela découle d'un manque de dialogue entre les employeurs et les employés. Dans son message à la nation, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du travail et des travailleurs, le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, avait pourtant salué l'existence d'un bon climat de dialogue social. On fait point avec Pierre Karungu.
Dans son message à la nation, à l'occasion de la célébration du 1er mai, Journée mondiale du travail et des travailleurs, le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, a indiqué que la journée arrive au Burundi au moment où il y a un climat d'entente et de dialogue entre l'État, les employeurs et les employés. Il a profité de l'occasion pour remercier le travail accompli par le cadre de dialogue mis en place pour résoudre les conflits entre les employeurs et les employés.
Aujourd'hui, nous célébrons cette journée au moment où la paix et la sécurité règnent dans tout le pays et au moment où il y a un bon climat d'entente et de dialogue entre le gouvernement, les employeurs et les employés. Nous saluons le travail des membres de la Commission nationale chargée de résoudre les conflits entre les employeurs et les employés. Nous sommes conscients que les problèmes ne peuvent pas manquer au travail. D'ailleurs, là où il y a les hommes, il y a toujours de petits conflits. Mais il faut toujours chercher des solutions ensemble.
Le président de la COSIBU, Célestin Savimana, lui, n'entend pas cela de cette oreille. Il regrette qu'à certaines occasions, de nombreux travailleurs soient persécutés par leurs employeurs pour avoir dénoncé ce qui ne va pas. Pour lui, cela découle d'un manque de dialogue.
Si les représentants des employeurs lèvent le doigt pour dénoncer ce qui ne va pas, ils sont traités de saboteurs ou d'ennemis. Après, ils sont persécutés, soit ils sont dégradés, soit ils sont sommés d'aller travailler loin de leur famille. Et là, c'est quand ils ne sont pas emprisonnés ou licenciés injustement. Tous ces actes de persécution des travailleurs montrent parfois qu'il n'y a pas de dialogue dont on parle. Il y a des employeurs qui dirigent par terreur et la dictature. Et la conséquence, les employés vivent dans la frustration. Cela ne fait que déshonorer les employeurs et ne pourra jamais permettre d'augmenter la production.
La Confédération des syndicats des travailleurs du Burundi appelle les employeurs et les employés à travailler en collaboration et dans le strict respect de la loi. Elle est convaincue que cela permettra de booster la production.
Inzamba. Le détournement des fonds publics, c'est ce qui caractérise principalement les dirigeants du Burundi. C'est ce que dénonce Monseigneur Simon Namwana, qui fut archevêque de Gitega. Selon Simon Namwana, cette mauvaise conduite est le propre de la majorité des autorités burundaises. Dans une émission sur la radio Voix d'Amérique, il invite les dirigeants à se défaire de cet égoïsme pour mieux diriger le pays. On écoute Simon Namwana, ancien évêque de l'archidiocèse catholique de Gitega.
À mon avis, et je l'avais déjà dit il y a quelques jours, c'est que les gens qui se battent pour s'enrichir, et ce sont surtout nos dirigeants qui nous montrent cet exemple de se chamailler pour les richesses, de proférer des mensonges sur quelqu'un pour l'éliminer, parce que nous disons qu'il y aura plus de voix que nous, qu'il sera plus fort que nous. Moi, j'ai vécu près de ces politiques et je pense que 80% parmi les autorités, à commencer par le sommet, je dis, si cet esprit changeait, nous sommes vraiment capables de diriger correctement ce Burundi.
Les coupures répétitives d'électricité sont parmi les causes des retards de livraison des documents de voyage qui sont délivrés par la police de l'air, des frontières et des étrangers. Dans un point presse que Maurice Bonima, le commissaire général de la PAF, a animé vendredi, il a indiqué que la cause majeure qui occasionne ce retard était l'utilisation des documents frauduleux pour ceux qui sollicitent les services de la PAF. Ceci doit d'abord procéder à l'authentification de ces documents. Suivez le commissaire général de la PAF, Maurice Bonima.
Ces derniers jours, nous avons eu un défi lié à deux situations. La première situation, c'est que, comme vous le savez, ces derniers jours, il y a des coupures d'électricité. Si, par exemple, il y a deux ou trois coupures par jour, cela occasionne des retards dans la production des documents de voyage. Autre chose, la plus importante, c'est que nous avons remarqué ces derniers jours que les demandeurs des documents de voyage amènent des faux documents. Des faux documents, c'est-à-dire les attestations de résidence, les attestations d'identité complète, voire même la carte nationale d'identité. Et nous avons vu que cette situation actuellement est très inquiétante, où si on fait la moyenne, on remarque que 50% des documents qu'on amène aujourd'hui sont des faux documents. C'est-à-dire des documents qui ne sont pas délivrés par l'administration. Je dirais que à un certain moment, les faussaires ont érigé une administration parallèle. C'est pourquoi, après avoir remarqué cette situation, nous avons pris la décision de mettre tous les dossiers concernés en attente pour que chacun doit se présenter physiquement pour que nous puissions faire un contrôle rigoureux sur ces documents qui ne sont pas délivrés par l'administration connue. C'est cela qui a causé ces retards que nous remarquons aujourd'hui. Nous demandons toujours à quiconque qui remarque cette situation de dénoncer ces personnes. Les personnes qui sont dénoncées, que ce soit au niveau de la police ou la population, est punie conformément à la loi. Vous pouvez même aller au commissariat général de la police judiciaire. Ces derniers jours, nous sommes en train de traduire en justice beaucoup de personnes qui viennent avec ces documents frauduleux ou qui commettent ce genre de forfaits. Donc, nous conseillons toujours à la population, aux demandeurs de ces documents, de dénoncer quiconque, soit qui demande de l'argent ou qui est en dehors de la réglementation en vigueur.
Fin de cette rétrospective de la semaine qui s'écoule. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.
Ngiyi nzamba.
Nzambi rasamirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.